Christian Bobin, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver chez vous, dans ce havre de paix, en Saône-et-Loire. C'est ici que vous écrivez ces livres qui illuminent la vie de bien des lecteurs, des fidèles qui vous suivent depuis le très bas, et puis ceux par qui le bouche à oreille leur ont fait découvrir certains livres, comme L'homme joie ou L'enchantement simple. J'ai souri en lisant le titre de votre nouveau livre que vous publiez ces jours-ci chez Gallimard, La Grande Vie. On pourrait croire au titre d'un roman de Balzac dans le tout Paris du 19e siècle, mais on s'en doute, avec Christian Bobin, c'est pas La Grande Vie à la Balzac, on est dans un tout autre sens. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce titre, La Grande Vie ?
Il est venu tout armé vers moi, il a fleuri d'un seul coup, il est venu. Et il s'est imposé très vite en cours d'écriture, au tout début de l'écriture de ce livre. Je voulais une chose simple et rayonnante et forte et puissante. J'avais envie d'un soleil sur la couverture. Et il me semble que ce titre-là, le mot « vie » est simple, le mot « grande » est aussi simple, mais leur alliance donnait quelque chose d'éclatant qui servait mon propos. Mon propos, c'est de résister le plus possible à un affadissement du monde et du langage, à quelque chose qui s'est depuis quelques années emparé de notre langage et même de nos visages et même de nos yeux pour les éteindre. Il me semble que, à rebours, le langage poétique, qui est beaucoup plus qu'un langage littéraire, est un moyen de résistance. Et c'est ce langage-là, comment dire, vivant, risqué, qui nous amène à la grande vie. Je vais vous donner un exemple très simple, très pauvre et j'espère éclairant. Quand quelqu'un tombe amoureux et déclare son amour, c'est une parole qui amène un printemps dans la vie et dans les yeux de l'autre. Et c'est juste ça, la grande vie. C'est juste ça. C'est pas l'argent, c'est même pas le bien-être matériel. C'est une déclaration d'amour à la vie.
Mais vous le dites clairement à la fin du livre, pour vous, la poésie, c'est la grande vie.
Oui.
Quand vous dites poésie, vous n'écrivez pas en vers.
Non, jamais.
Et pourtant, tous vos textes sont de la poésie.
C'est à vous de le qualifier ainsi. Je ne saurais pas trop les qualifier. On appelle ça de la prose, mais ce qui se passe, il faut savoir. Je vais vous donner un exemple de ce matin. Voilà, quand je suis allé vous accueillir à la gare, donc j'ai pris la voiture et j'ai eu un petit peu de mal ce matin à ouvrir le portail d'ici et je me suis un petit peu agacé, énervé contre moi-même. Et parce que le temps passait et je ne voulais pas que vous faire attendre. Le sol était gelé, j'ai eu du mal à pousser le portail. Bien. Cet agacement léger a continué sa vie dans ma tête un tout petit peu jusqu'à, au bout de 2-3 minutes, j'ai vu au bord de la route un bouleau. Nous sommes en hiver. Il était décharné, il était défeuillé, mais il avait ses branches qui restaient, y compris les plus fines, avaient une élégance, une inclinaison, une douceur, comme de quelqu'un, comme d'un enfant qui pose sa tête sur l'épaule de sa mère. Et le feuillage du bouleau, les branches mortes et presque cassantes, presque facile à briser en cas de gel, ces branches avaient une douceur très étrange. Elles s'appuyaient sur l'épaule de l'air. Pourquoi je vous et alors si vous voulez j'ai là ce matin j'ai reçu une première leçon, c'est-à-dire mon énervement de tout à l'heure devant le portail est tombé complètement. C'était terminé. Une paix m'est venue parce que j'ai compris que il me semble qu'il fallait être à l'image de cet arbre-là. Vous voyez, je parle parce que je l'ai vu comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Je parle de cet arbre. Je parle d'un mouvement d'une tête d'enfant inclinée par le sommeil ou la fatigue ou la confiance sur l'épaule de sa mère ou de son père. Ce sont deux domaines différents, mais moi, je vois en image. Quand je vois une chose, elle me fait tout de suite penser à une autre qui l'éclaire à rebours. Je vois une chose présente, elle me fait penser à une chose absente qui vient l'éclairer. Donc la poésie, elle est comme le sang dans mes veines. Elle est dans ma parole, mais elle est dans mes yeux, elle est partout, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Et donc, peut-être que oui, peut-être que j'écris de la poésie, mais c'est pas par choix, c'est parce que c'est ma condition pour voir, ma seule façon de voir.
Mmh. En fait, vous nous invitez à ce que la vie devienne poésie, en fait.
Elle l'est. En vérité, je pense qu'elle l'est. Il suffit que nous ayons la grâce, la légèreté d'associer une chose à une autre. L'univers entier est un langage. Les étoiles parlent d'elles-mêmes, bien évidemment. Elles parlent de la lumière, évidemment aussi, mais elles parlent aussi elles disent quelque chose comme un secours. Qui nous est adressé, qui peut un jour nous être adressé dans la nuit de nos vies. Elles parlent aussi des fleurs, parce qu'elles ont une ressemblance avec les fleurs des prés, les étoiles, ou avec les vers luisants qui sont dans les fossés. Voyez, toute chose parle, le monde est bruissant d'un langage extrêmement doux et réconfortant quand on commence à l'entendre. Et ce langage-là, c'est ce que j'appelle la poésie. J'ai juste à le recopier.
Mais en même temps, Christian Bobin, vous êtes très lucide sur la vie, sur la condition humaine, sur la souffrance aussi de la condition humaine. Vous dites, dans un très beau portrait que vous dressez de Marilyn Monroe, dans cet ouvrage, vous dites « Même dans l'enfer, et nous y sommes, il y a des merveilles ». Même dans l'enfer, et nous y sommes.
d'abord, rions. Et puis ensuite...
Pleurons.
Ensuite, oui, si vous voulez, pleurons. Rions et pleurons, les deux presque en même temps, au fond. C'est banal ce que je dis, parce que chacun le sait, ou du moins le sent. Ce que j'appelle l'enfer, c'est quand il y a de moins en moins d'humains. C'est aussi simple que ça. Et s'il y a de moins en moins d'humains, il y a aussi de moins en moins de divins, parce que je ne dissocie pas les deux choses, c'est la même chose. Pour moi, un homme parfaitement humain, si ça existe, je pense qu'on est appelé à tendre vers ça, mais c'est très rare que ça existe. Un homme parfaitement humain est par le fait même divin, ou du moins angélique. Il y a de moins en moins de vérité dans les visages, il y a de moins en moins de lenteur dans nos vies, et de vérité, et de douceur, et d'attention. Mais ça, tout le monde le sait. Et c'est ce que j'appelle l'enfer. C'est la grande roue d'argent qui passe et qui écrase tout sur son passage.
C'est un livre de résistance que vous avez écrit là, Christian Bobin.
J'aimerais que ce soit ça. En tout cas, oui. Oui. Le verbe résister, c'est le verbe préféré des tournesols et des tigres et de certains poèmes, oui.
Mais résister à quoi fondamentalement?
Résister à la mort à l'intérieur de la vie, résister à l'affadissement de la vie, résister à la maltraitance quotidienne et méthodique qui est faite de nos vies. Thank you.
Christian Bobin, vous aimez bien le mot glané. Je l'ai trouvé à plusieurs reprises
oui.
dans votre livre, La Grande Vie. Moi aussi, j'ai glané des petites perles, des phrases à méditer, à réfléchir. On va en prendre quelques-unes, si vous voulez bien. Bien sûr, celle qui ouvre ce recueil, elle est fondamentale. Je l'imagine, si vous l'avez mis ici en ouverture de ce livre. Vous écrivez ceci, « Ceux qui nous sauvent de notre vie ne savent pas qu'ils nous sauvent. » Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je pense que ça s'entend. C'est quelque chose que j'ai éprouvé quelquefois dans ma vie, et puis c'est quelque chose que chacun, je crois, a connu un jour ou l'autre. Les secours sont innombrables et toujours imprévisibles. On peut être... comment je pourrais vous dire ça ? Bien, revenons en gare, là où j'étais ce matin. Je vais vous donner cet exemple qui éclairera peut-être. Je dois aller un jour à Paris pour mener une sorte de lutte, si vous voulez. Il y a quelque chose qui ne me satisfait pas, qu'on me propose, voire qu'on m'impose, et il faut que je discute. Je me sens un peu affaibli. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Sur une barrière le long du quai de gare, je vois des liserons de toutes les couleurs. Une majorité de liserons roses, roses pâles. Et ils sont agrippés au barreau de la barrière, mais comme un prisonnier à sa fenêtre. Vous voyez ? Je les vois et c'est fini. J'ai gagné mon combat. J'ai gagné le combat que je dois mener dans quelques heures.
Ils vous ont sauvé.
Ils m'ont donné, si vous voulez, ramené dans le cœur une chose tellement fragile, une idée et un sentiment de la vie tellement fragile que je suis prêt, entendez-moi bien, je mets des guillemets, à tuer pour défendre cette chose fragile que je ne sais pas nommer. Ils m'ont rappelé que je ne parle pas de se battre pour soi, je parle de se battre et de résister, puisque vous me proposez ce mot, pour plus grand que soi, mais qu'on porte en nous quelque chose qui a à voir avec la pudeur, avec le secret, avec un amour indicible, avec quelque chose qu'on ne sait pas forcément nommer, mais qui est plus précieux que tout, et il est hors de question qu'on vous enlève ça du cœur. Et ces liserons, ils sont venus, mais comme une congrégation de bons petits frères comme ça, et leur simple vue m'a donné une force, mais incroyable, incroyable. Voyez ?
Je comprends mieux une autre phrase que j'ai glanée dans ce livre, qui est « J'ai entrevu assez du paradis pour comprendre qu'il peut être partout ».
Ah bah oui, je viens de répondre aux deux questions, au fond, à celle de tout à l'heure.
C'est liseron, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Christian Bobin, une autre phrase glanée dans ce livre « La Grande Vie » est « Je crois que tout souffre dans cette vie ». Ne soyez pas trop effrayé par cette phrase. Je pourrais aussi bien dire, et ce serait aussi vrai, « Tout se réjouit dans cette vie ».
Oui.
Et quand on vous lit, on sent qu'il y a toujours cette double dimension.
Oui. Ah, je suis content que vous ayez vu cette double dimension.
La souffrance et l'émerveillement.
Et l'émerveillement, oui. Oui.
C'est toute votre écriture, non, qui est résumée quelque part.
Ben oui. Puis ma vie, ma pensée, je tenais une autre scène cette fois-ci. Allons au concert. Ça, c'est. Je n'ai pas assisté à ça, mais on me l'a raconté et la personne qui me l'a raconté était assez éloquente pour me faire voir ce qui s'est passé et que je vais dire maintenant avec mes mots. C'est à Paris, salle Pleyel, un concert de Schoenberg, La Nuit Transfigurée. On sait ce qui se passe dans les salles de concert. La règle d'or, c'est le silence. C'est que personne ne parle. C'est une règle un peu très intangible, sacrée. Or, il se trouve que dans cette salle, ce soir-là, il y a un Mongolien, il y a un enfant mongolien que ses parents ont amené. Le concert commence et la musique touche tellement l'enfant qu'il se met à l'accompagner à certains moments, à la ponctuer de râles d'extase, très fort. Évidemment, ça choque les gens. Mais moi, je pense que Schoenberg n'a jamais été aussi bien entendu, jamais été aussi bien accompagné, et que cette souffrance que porte en lui l'enfant mongolien, qui est infernale par un côté, qui est infernale aussi pour son entourage, évidemment, eh bien, elle avait aussi quelque chose tout d'un coup de paradisiaque dans cet instant-là, dans cet accompagnement par l'enfant, emmuré en lui-même de cette musique de la nuit transfigurée en plus. Ça s'appelait la nuit transfigurée, le morceau de Schoenberg, vous voyez.
Et pourquoi vous ressentez ça? Et pourquoi la majorité des gens qui ont été autour de cet enfant ont été dérangés par l'enfant?
Ben ça, je sais pas. Elle est drôle, votre question, c'est vrai. Elle est bonne, votre question, mais alors là, je sais pas, parce que pour moi, c'est tellement évident. Quand je vous le dis, je vous fais partager la chose. Mm-hmm. On est d'accord. Et peut-être même pour ceux qui vont nous écouter.
Et je sais que c'est vrai, que c'est pas une posture chez vous.
Ah ben non.
Je sais que c'est vrai.
Oui. Ah ben oui.
On pourrait dire c'est une posture.
De toute façon, la vérité, ça se prend à l'oreille, ça s'attrape. Ouais, on est d'accord.
On est d'accord.
Dans les yeux, quand je regarde là, et puis à l'oreille. De toute façon, c'est non, c'est.
Alors pourquoi vous?
Écoutez, je pense qu'on a ça tous en nous, puisque j'arrive moi en l'écrivant. Sinon, j'aurais aucun lecteur. Sinon, ce que je dis là ou ce que j'écris, qui est à peu près la même chose au fond, eh bien ne toucherait personne. Si je rencontre un écho avec mes livres, c'est bien parce que c'est en vous. Mais peut-être c'était juste endormi. Peut-être le seul vrai problème dans cette vie, c'est qu'on ne se fait pas assez confiance. On ne fait pas assez confiance à ce qu'on ressent profondément. Et on écoute je ne sais quoi. On écoute le devoir. Ce que paraît-il il faut être, ce qu'il est convenable de faire ou de dire, on écoute les spécialistes de ceci ou de cela. En vérité, ce qu'on sent, on le sent. L'enfant qu'on était, il est quand même pas mort. Et l'enfant, quand il rentre dans une pièce, il sait tout ce qui se passe. Il n'a pas les mots pour le dire, mais il sait tout. Il sait si telle ou telle personne truque ou ne truque pas. Il sait, vous voyez. Et je pense que ça, on l'a en nous. Je soulève juste ça au niveau du langage, au niveau des mots. Je le prends dans l'océan, au fond de l'océan qui est en chacun et qui est en moi aussi, et parce que je suis fait de vous, je suis pas différent. Et puis je l'amène en surface de la page blanche. C'est tout ce que je fais.
En vous écoutant là à l'instant, je me demande si vos mots ne sont pas comme un baiser sur la belle endormie qui est en nous.
C'est joli. Ça me plairait bien, oui. Oui, peut-être que l'écriture va au bois dormant de la vie. C'est ça, pour réveiller tout le château. Oui, c'est ça. L'écriture a une fonction d'éveil, c'est indéniable. Pour moi, je ne dis pas que je réussis toujours, mais pour moi, c'est ce qu'elle a comme fonction. Elle a une fonction d'éveil.
Toujours, quand vous parlez, Christian Bobin, il y a de la lenteur. Vous aimez la lenteur.
Oui.
Dans le monde rapide, agité qu'est le nôtre, vous aimez cette lenteur. Et vous écrivez dans La Grande Vie, le monde a tué la lenteur.
Oui.
Il ne sait plus où il l'a enterrée. Pourquoi est-ce aussi important pour vous de ralentir? Mais ce n'est pas seulement ralentir, c'est aimer la lenteur.
C'est quelque chose de très... de vital. J'aimerais pouvoir le faire entendre. La lenteur s'oppose à la vitesse. La vitesse, elle a pris ce monde dans sa poigne de fer. Elle nous a pris avec et elle ne nous lâche plus. Nous finissons par nous croire obligés d'aller vite, de parler avec des phrases courtes, nerveuses, d'aller d'un endroit à l'autre, d'essayer d'avoir tout, tout de suite. C'est pas simplement, j'oppose pas simplement deux façons de vivre. C'est comme une option sur l'absolu. Dans la lenteur, c'est assez simple. Dans la lenteur, je laisse venir les choses à moi, au risque de m'ennuyer, parfois. Je laisse venir, il y a quelque chose qui va venir, peut-être, et que j'accueillerai. Dans la vitesse, c'est moi qui vais au-devant, c'est moi qui suis comme un prédateur, c'est moi qui suis comme un dévorant. Je vais vers la vie avec une rapidité et une impatience qui risquent de la détruire. Et ce sont deux expériences, deux possibilités profondes, métaphysiques, spirituelles de vivre cette vie. On n'a pas toujours le choix, mais on peut lutter et il faut, je crois, lutter le plus possible contre l'impératif morbide, mortifère de vitesse, d'accélération. Vous savez, il faut du temps pour lire une page. Il faut beaucoup de temps pour l'écrire, et il faut beaucoup de temps pour la lire, et il faut beaucoup de temps pour aimer quelqu'un. Il faut des années pour l'aimer vraiment, de plus en plus, pour passer outre les troubles, les problèmes, les interrogations, les fatigues. Vous voyez, il faut un temps infini. Et ce qui est très curieux, c'est que si vous allez plutôt du côté de la lenteur, vous allez recevoir une quantité de vie, mais infinie. Et plus vous allez vite, moins vous avez de vie. C'est très, très curieux. C'est comme dans un conte de fées. Tu veux aller vite, mais en échange, tu me donneras tout le sang de tes pensées, de tes songes, de ton cœur. Tu perdras tout ça. En échange, tu auras une vitesse incroyable dans tes décisions, dans tes actions, dans tes paroles. Vous voyez ? C'est un mauvais pacte.
Christian Bobin, vous écrivez dans ce livre, La Grande Vie, « Le livre que je tiens entre mes mains se met parfois à sourire ». Je pense que ce livre que vous venez de publier chez Gallimard va sourire et va accompagner beaucoup, beaucoup de lecteurs. Merci beaucoup de votre accueil.
Merci à vous.
Et de ces mots, bien sûr, que vous nous offrez chaque fois. Au revoir.
Au revoir.